Alors bonsoir à tous et merci vraiment d'être venus nombreux parce que je suis très heureuse de partager cette estrade avec Jean Vallier qui a publié en 2006 et en 2010 une monumentale biographie de Marguerite Duras aux éditions Fayard. Et en cette année de centenaire de la naissance de Marguerite Duras, nous avons pensé que c'était intéressant de la publier dans une version rassemblée en un seul volume avec une édition entièrement mise à jour. Jean Vallier est un homme qui se partage entre la France et les États-Unis depuis longtemps. Il a été critique de cinéma, il a dirigé l'Alliance française, il a dirigé un ciné-club, si je ne me trompe pas, donc il était vraiment... Et il a rencontré Marguerite Duras dans des circonstances qu'il vous contera lui-même. Je voulais juste, avant de commencer, lui laisser la parole, vous lire une brève citation de ce que disait Télérama sur son travail quand est paru le premier tome de la biographie. Argumenté, attentif de façon égale aux dimensions intellectuelles et sensuelles de Duras, nourri d'une connaissance sans faille du corps durassien, la belle analyse de Jean Vallier, qui court en filigrane du déroulé des faits, rassemble et réconcilie entre eux les multiples visages de l'écrivain. Et je pense que Jean Vallier va nous raconter lui-même comment s'est enclenché ce gigantesque chantier et comment il a pu travailler un peu comme un historien à partir de la vie de cette femme qui a quand même changé le visage de la littérature française, je trouve, au XXe siècle. Donc ça, on en a beaucoup parlé déjà et je ne rajouterai rien d'intéressant, mais je vais donc vous laisser la parole, Jean, sur cette question du biographe et de l'historien. Parce qu'en fait, je crois que vous avez travaillé un petit peu dans les deux.
Je suis un historien manqué.
Voilà. Alors dites-nous, comment, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on commence par comment vous avez connu Marguerite Duras ?
Oui, peut-être, oui. Il faut que je me situe par rapport à elle. C'est assez simple, j'étais donc à New York à partir de 1962. Et j'ai créé un ciné-club où je montrais des films d'avant-garde, si possible. Le public suivait, il fallait lutter un petit peu, il fallait expliquer. Et... En 1963, on a créé à New York un festival du film très important qui, justement, faisait la part très belle au cinéma français et au cinéma d'avant-garde. Et quelques années plus tard, j'étais ami avec le directeur, le fondateur du festival. Et il a invité Marguerite Duras pour la première fois. Ce n'était pas son premier voyage aux États-Unis, mais pour la première fois en tant que cinéaste avec « Détruire, dit-elle », qui est un film assez remarquable et qui était, pour des gens comme nous à l'époque, très étonnant au niveau de la facture, au niveau de la manière dont le film était écrit, cinématographiquement parlant. Donc, il m'a demandé si je voulais le rencontrer, et je lui ai dit « Bien sûr ». Et là, nous sommes restés pendant une heure et demie à parler. Elle m'a dit « Mais vous me posez des questions, allons prendre un café ». Donc, on est allé prendre un café. Une heure et demie plus tard, on parlait encore. Elle s'est plantée devant moi. Elle m'a dit « Mais dites-vous, le cinéma, ça vous tient ?» Et ça me tenait, effectivement. Donc, ça a commencé comme ça. L'année suivante, je me suis entremis... j'avais une amie à Columbia Artist qui détenait une copie de La Musica, un film qu'on ne voit pas encore en France, pratiquement. Et j'ai intrigué pour le sous-titre. Il a été invité au festival l'année suivante. Donc, nous avons commencé là, à nous écrire et il était question à l'époque même de publier le scénario de La Musica et d'autres choses en version bilingue. Donc, elle m'avait dit « Mais je vous fais confiance si vous voulez, bien sûr, je donne mon accord ». Et de fil en aiguille, on est arrivé à India Song en 1975. Nous nous étions écrits plusieurs fois. Elle se souvenait de moi et en 1975, elle est venue présenter India Song. Et là, ça a été à nouveau... très très bien reçue à New York, c'était un événement, disons, cinématographique, et elle était très malheureuse dans les hôtels, donc cette amie qui dirigeait le festival m'a dit « Mais tu as un grand appartement, est-ce que tu ne voudrais pas la loger ?» Loger Marguerite Duras, c'était un plaisir, et en même temps, qui allais-je découvrir ? Parce que je l'avais vue rapidement, donc là j'ai retrouvé une personne complètement simple, complètement disponible, et c'est... Toute la clé, dans le fond, de ma relation avec elle, c'est que c'était une personne qui était à l'aise avec tout le monde, On prenait le petit déjeuner le matin, j'allais ensuite à mon bureau, je la retrouvais le soir, on allait manger, on a dansé, ça commençait comme ça. Bon, j'étais très attentif à son œuvre théâtrale et cinématographique et pas autant à son œuvre purement romanesque ou littéraire. Pour la raison, c'est qu'à l'époque, nous avions à New York tous les tenants du nouveau roman, Rob Grier, Nathalie Sarraute, qui sont devenus aussi des amis, mais beaucoup moins que Marguerite Duras. Et j'étais pas très, très au courant, finalement, de l'essentiel de son œuvre littéraire. Je suivais comme tout le monde, mais c'est ce qui me fascinait, moi, c'était sa participation au cinéma. Et puis, alors, surtout, au niveau du théâtre, il y avait des tournées. J'ai présenté L'Amande anglaise pendant une dizaine de représentations, des journées entières dans les arbres. Donc, il y avait des événements autour de Marguerite Duras. Et nous sommes restés en relation. Quand je venais à Paris, j'allais chez elle. Une année, elle m'a dit « Oh, je veux faire un film avec toi ». Je dis « Mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Dans ma tête, je me dis « Mais je ne peux pas, moi j'ai déjà un travail ». Et puis l'année suivante, elle m'a dit « Tu sais le film que je voulais faire ? Ben, je vais le faire avec Marlon Brando ». Voilà, ça c'était Marguerite Duras. Donc c'était une relation très familière. Ça n'excuse. Alors, je passe sur l'essentiel. Ça a duré jusqu'à. Je lui ai parlé quelques semaines avant sa mort, parce que j'étais cette année, j'étais critique de cinéma en même temps, à côté de mes activités d'animateur culturel à New York. Et les organisateurs d'une rétrospective Marguerite Duras au Musée d'Art Moderne m'avaient demandé d'intervenir. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'inviter une dernière fois ? Et là, c'était très étonnant. Je l'ai appelé, je l'ai eu miraculeusement directement. J'ai entendu cette voix un peu d'outre-tombe déjà. Et je lui ai expliqué qu'on l'invitait. Et j'ai entendu, ah oui, une dernière fois, ça serait bien. Donc je me suis précipité, j'ai écrit une lettre qu'on n'a pas retrouvée, que Yann Andrea a dû mettre à la poubelle. Il était hors de question pour elle de venir. Voilà, donc toute ma relation avec Marguerite Duras était sur ce... Sur ce point-là, j'ai fait en 1986, alors à New York, avec j'étais directeur de l'Institut français à l'époque, un hommage à Marguerite Duras en film, théâtre, on a présenté tout ce qu'on pouvait. Il y avait Eden Cinéma, il y avait la merveilleuse mise en scène avec Madeleine Renaud et que Jean-Louis Bourreau avait fait de Des journées entières dans les arbres. Donc voilà, c'était toute ma fréquentation de Marguerite Duras. Elle est morte, je n'ai pas pu venir à son enterrement et à l'époque je me suis mis à la retraite parce que je voulais écrire. Donc ça m'est venu un peu comme une inspiration. J'ai lu aussi ce qu'on avait écrit sur elle parce qu'on a beaucoup écrit sur elle, comme vous savez. Et finalement, je ne retrouvais pas, elle était un peu enterrée sous les gloses et sous les commentaires. C'était utile, mais en même temps, le personnage disparaissait un peu. Donc je me suis mis imprudemment à l'ouvrage. Je dis imprudemment parce qu'évidemment, je ne savais pas exactement combien de temps ça allait durer. J'avais l'avantage d'être libre de mon temps, d'avoir des ressources suffisantes, disons-le, financièrement pour pouvoir voyager et aller sur les lieux où je devais me rendre. Et à partir de là, je me suis imposé un peu malgré moi de travailler en historien parce que finalement, tout le commentaire sur l'œuvre de Marguerite Duras appartient à des quantités d'universitaires. Vous savez qu'il y a plus de 250 thèses de doctorat sur Marguerite Duras. C'est extraordinaire, ça veut dire que l'œuvre, évidemment, parle, disons. Ça n'était pas mon propos. Mon propos, c'était d'essayer de retrouver, finalement, ce qui était la vérité de sa vie, c'est-à-dire la vérité purement historique, et à partir de là, essayer de comprendre comment, à partir de ces événements, elle avait pu construire cette œuvre où, finalement, quand on regarde de près, elle est constamment au centre. Je pense qu'elle a écrit très peu de choses où elle n'était pas motivée directement par son affect, par son, quelquefois ses souvenirs. Donc, elle a arrangé sa vie comme ça lui convenait. Je pense qu'un grand écrivain a la plus grande liberté pour mentir s'il en a envie, c'est déjà un mot de trop, si vous voulez. Mais mon souci, devant un peu le désordre qui régnait dans les études durassiennes, c'était de rétablir tout de même une espèce de suite dans les idées, disons. Et ça passait par une chronologie que j'ai commencé à établir d'une manière très rigoureuse, pratiquement année par année, mois par mois, si c'était possible. Alors, ça peut paraître un peu maniaque. Je me souviens d'être allé voir... Jérôme Lindon aux éditions de Minuit qui m'a dit « Ah, donc vous allez coucher partout où elle a couché, vous allez aller partout où elle a vécu. » Presque. Et ça n'a pas été inutile parce que finalement, cette œuvre est partie d'une expérience du vécu, du réel, Donc il fallait retrouver à la fois au niveau des archives le déroulement des faits et au niveau de l'inspiration ce qu'elle a pu engranger d'émotions, de souvenirs, de toutes sortes de choses extraordinaires qu'on retrouve dans son œuvre. À partir de là, mon chemin était tout tracé, donc il a fallu passer des semaines, des mois dans les archives. Alors, je vais citer très rapidement, par exemple, ses parents étaient enseignants. Bon, il n'y a pas à inventer quoi que ce soit. Je suis moi-même issu de l'éducation nationale, prêté par les affaires étrangères à la scène new-yorkaise. J'ai un dossier que j'ai vu quand j'ai pris ma retraite, tout est consigné. Donc, il fallait simplement retrouver ce qu'était monsieur et madame Donadieu, et si possible, comprendre pourquoi ils allaient de tel poste à tel poste, pourquoi par exemple, on a raconté des tas de choses, par exemple sur la mort du père, que la mère ne serait pas venue pour le voir mourir à Pardaillan, côté de Duras. Tout ça, c'est de la fantaisie, parce que finalement, il y a des règles très strictes dans l'administration. Monsieur Donadieu était quelqu'un, d'abord, c'est un homme extraordinaire à mon avis, qui sortait d'une famille très simple, qui a pu, il n'était pas professeur de mathématiques, il était licencié de sciences naturelles, ça n'a pas une grande importance, et il a épousé, si vous voulez, l'esprit du temps. Il fallait retrouver cet esprit de la fin du début du siècle. Il est parti, et son épouse aussi, sa future épouse en 1905. Donc il fallait retrouver cet esprit des pionniers de l'école laïque qui allaient en Indochine pour toutes sortes de raisons, mais pas forcément ce qu'a dit Marguerite Duras. Ils voyaient des affiches où on leur disait « venez vous enrichir », etc. Tout ça, c'est sympathique, mais c'est de la fantaisie. En fait, le père et la mère de Marguerite Duras s'étant passés par des écoles normales qui formaient ce qu'on a appelé les hussards de la République, il fallait retrouver leur cheminement, ce qu'ils apportaient en Indochine, leurs espoirs, leurs défaites, et voir en quel par d'héritage, ils ont laissé ça à une personne comme Marguerite Duras, qui dans la vie courante était quelqu'un à la fois de très émotive et quelquefois un petit peu extravagante, mais qui avait les pieds bien plantés sur terre. C'était une terrienne. Donc si on voit le père et la mère comme des provinciaux, l'un du nord, l'un du sud-ouest, à partir de là, on approche peut-être un peu plus vite la personnalité. Tout a une importance parce que la carrière d'Henri Donadieu, en fait, a été une sorte de mini-tragédie. Il est parti en 1905 pour des raisons très simples, c'est que son frère était à la coloniale, comme on disait à l'époque. Il a été reçu sur place à Saigon, excusez-moi, pour devenir géomètre. Et M. Donadieu, qui était à l'époque dans une bourgade de la région, voulait partir pour savoir s'il pouvait rendre avancer sa carrière d'une certaine manière, mais pas nécessairement pour la gloire. Donc il s'est retrouvé à côté de Saigon, directeur de l'école normale, et à partir de là, il a amené sa femme et ses deux enfants. Dans le premier, il avait épousé, comme vous savez, déjà sans doute une jeune fille de Guyenne, de Lévignac exactement, pas très loin de Duras. Et son épouse est morte, comme beaucoup d'Européens, ce qu'on oublie un peu vite. On parle du grand vampirisme colonial et tous ces grands mots. On peut être gauchiste, on peut être de droite, on peut parler du colonialisme. Il y a des faits qui résistent, si vous voulez. La plupart des Européens, 20% mouraient de maladies tropicales. Ce qui est arrivé à la première épouse d'Henri Donadieu, ce qui est arrivé ensuite au premier mari de Marie Legrand, qui était la mère, comme vous le savez, de Marguerite Duras. Et ces deux personnes se sont réunies, ils étaient veufs et veuves. Henri Donadieu avait déjà deux fils qui sont restés dans la région. Tout ça, c'est un cheminement qui n'appelle pas de commentaires littéraires, si vous voulez. C'est une succession de faits. Il a été ensuite, je ne vais pas reprendre tout le détail, mais disons que tout ça repose sur des faits précis, et tous ces déplacements, tous les accidents de santé, les séjours aux hôpitaux, les voyages payés par l'administration, les bateaux qu'ils ont pris, la manière dont ils concevaient leur carrière, la manière dont Madame Donadieu, Marie Legrand, donc, qui avait épousé Henri Donadieu, correspondait avec l'administration, c'est très très loin du barrage contre le Pacifique, vous vous en doutez. Mais c'était normal. Cette femme était une femme de, Marguerite a dit, des Flandres, des grandes plaines du Nord. Là aussi, je suis allé sur les lieux. Fruges, je regrette, c'est le pays de Bernanos, c'est le pays du journal d'un curé de campagne. Donc là aussi, bon, ça n'a pas une grande importance, mais ça explique tout de même cette espèce de solidité terrienne qu'avait Marguerite Duras, qui n'a jamais renié cette appartenance à un milieu modeste et à la terre. C'est peut-être une de ses grandes qualités. Elle peut être à la fois, si on juge par son écriture, on pouvait la voir de loin comme une intellectuelle de Saint-Germain-des-Prés, distillant un style un peu trop alambiqué. Mais en fait, tout ça venait tout de même d'une nature très, très positive et très terrienne, encore une fois. Donc, c'est ce qui m'a guidé. Et le fait que je l'ai connu, le fait que je l'ai fréquenté, je me suis interdit, si vous voulez, d'avoir des opinions, d'abord, au départ. Ça ne m'a donné aucun droit pour fouiller dans sa vie. En fait, je peux vous faire une confidence, je pense que si elle savait que j'avais fouillé dans sa vie, elle aurait peut-être été très en colère. Nous ne nous sommes jamais brouillés, nous n'étions quand même pas dans la même ville, mais je me dis de temps en temps, je le disais... Claire desserrée, peut-être qu'elle se serait dit, après tout, pourquoi pas lui. Elle me disait, je t'aime bien, de temps en temps, donc voilà... Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Donc je me suis un peu, c'est peut-être arrogant de ma part, assigné cette enquête, si vous voulez. Parce que je pense que le mot est tout à fait... une fois que vous êtes sur une piste comme ça, vous ne pouvez rien laisser passer. Alors, on peut évidemment avoir des idées, penser constamment à l'œuvre. On me dit par exemple, mais vous allez déflorer l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez une personne, est-ce qu'on reproche aux biographies d'Émile Zola ou de Georges Sand, par exemple, d'aller chercher pourquoi Zola s'est engagé? Parce que Marguerite Duras, c'est une romancière, mais c'est aussi une personne qui a vécu dans des périodes très contrastées, très définies, si vous voulez. Et raconter n'importe quoi sur l'époque coloniale, par exemple, ça peut amuser la galerie, mais c'est tout de même pas très sérieux, si vous voulez, parce que tout ça... Je pense qu'à Marguerite Duras, en grande partie jusqu'à l'Empire, vous connaissez évidemment la publication dont elle est l'auteur, co-auteur en 1939-1940, l'Empire français. À l'époque, elle n'était pas du tout critique de l'appareil colonial. C'était une jeune fille qui pensait d'abord à sa survie mentale, sa survie affective. Alors, elle a raconté aussi que sa mère était très pauvre et tout ça. Pourquoi pas ? Elle s'est vue pauvre. Elle s'est toujours... Madame Donadieu, mère, avait peur de manquer. C'est pas de l'avarice, c'est un... Je pense que j'ai des grands-parents, moi, qui étaient paysans, je comprends ça très bien. De là à en faire une motivation constante, c'est autre chose. Donc, en fait, Marguerite Duras a, et on le retrouve dans son œuvre, a été très tributaire de cette mère, de son père un peu, mais il est mort quand elle avait 7 ans. Donc, là aussi, on peut... analyser, je laisse à d'autres le soin d'amener de la psychanalyse, tout ce qu'on voudra. Ceci dit, là encore, au niveau de la vérité et de la précision et des motivations possibles, quand le père est mort en 1921, Madame Donadieu avait été à grand-peine. Il était à Hanoï, il a été un petit peu blackboulé parce qu'il a... Il y a eu un incident avec des élèves chinois et l'amite, je ne vais pas revenir sur ce détail. En tout cas, il était un petit peu ramené à un écran en dessous. Et à ce moment-là, malheureusement, il était malade. Il est rentré en avril 21 en France avec l'espoir de rentrer pour la rentrée scolaire. Et il est mort en décembre. Madame Donadieu, elle, avait un poste de directrice d'une école importante à Phnom Penh. Il était à peu près impossible pour elle. D'abord, elle ne savait pas qu'il allait mourir, et d'autre part, elle assumait ses fonctions. Alors, bien sûr qu'on lui aurait accordé peut-être un congé, mais personne ne savait qu'Henri Donadieu allait mourir. Donc, à partir de là, fantasmer sur ce qui s'est passé, la mère a abandonné le père, etc., et le porter au débit ou au crédit de Marguerite Duras, elle a écrit, bien sûr, sur son père. Elle a dit qu'elle n'avait pas été émue, que la mort de son petit chien l'avait émue davantage. Ça lui appartient. C'est quelque chose qu'elle a vécu comme ça. Ça peut être intéressant, justement, pour voir comment, par rapport au père, elle a eu ce genre de réaction. Donc voilà, ma démarche, c'était avant toute chose la rigueur, aller dans les archives. Et quand vous allez dans les archives, par exemple, aux archives d'Aix-en-Provence, il y a plus forte raison celle de Saigon, Hanoï ou Phnom Penh, il faut vous méfier même de votre lecture, parce que j'ai passé des heures et des heures pour l'histoire de la concession, par exemple, à lire des documents. Les résidents écrivaient sur tout. Donc il faut faire la part des choses et puis ne pas avoir d'idées préconçues. Essayez de recueillir la chose très précise qui va vous permettre d'avancer dans cette espèce de saga des Donadieu, si vous voulez. Ça, c'est une expression de M. Vircondelet que je trouve très heureuse. C'était une saga. Mais cette saga, encore une fois, reposait sur des motivations, des règlements, un enchaînement de circonstances qui faisaient partie de la vie administrative tout bonnement. Donc, je vais laisser les... Alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que les archives en France sont remarquablement organisées et qu'en particulier aux archives nationales et partout, le travail est énormément facilité. Donc, finalement, le biographe, il n'a qu'à faire son travail, on lui a préparé le terrain. J'ai eu une chance inouïe en allant à Phnom Penh. J'allais en pensant qu'on avait détruit toutes les archives. Pas du tout, j'arrivais de Hanoï. On m'a dit, monsieur, on vous a préparé un dossier. Les archives sont numérisées par une entreprise australienne. Donc j'ai retrouvé là des dossiers inespérés, tous les plans de la concession, le lieu exact où Madame Donadieu avait acheté son morceau de terrain, pas à l'administration, comme vous savez sans doute maintenant, mais à un amite. Ça n'a aucune importance. Marguerite a eu toutes les raisons possibles. Puis elle a écrit tout ça beaucoup plus tard. Elle a écrit ça un peu contre sa mère, un peu contre peut-être le régime colonial, mais surtout pour parler d'elle, pour restituer quelque chose de très profond dans sa vie qui lui était arrivée. Ça n'enlève absolument aucun mérite à ce chef-d'œuvre qui est le barrage contre le Pacifique. Donc, à partir de là, les archives étant protégées, j'ai eu la grande chance de pouvoir retrouver des choses que je n'espérais pas trouver. Tout ça, c'est pour vous dire que ce travail, dans le fond, c'est un travail patient, un travail minutieux. Et je peux bien vous le dire maintenant, dans mon esprit, je savais qu'on préparait la Pléiade. Et je me suis dit, quelqu'un doit faire ce travail de débroussaillage. Parce qu'on va me dire, oui, alors vous vous occupez de la vie, donc vous oubliez l'œuvre. D'abord, c'est impossible, parce que constamment, quand vous allez à l'IMEC, quand vous allez au niveau des manuscrits, au niveau des... Je savais tout de même comment elle avait lutté toute sa vie pour écrire. Je connaissais toutes ces histoires, l'alcoolisme, je connaissais une grande partie de sa vie vécue à partir des années 50, tout le monde savait ça. Mais encore faut-il, dans cet énorme travail qu'elle a fait, dans une année, quand vous avez une chronologie précise, vous retrouvez une femme qui est vraiment avait une activité folle. Elle pouvait à la fois assumer faire un enfant, le surveiller, le protéger, essayer de l'envoyer à l'école. Alors ça, c'est quelquefois un épisode un peu douloureux parce que Jean Mascolo a été finalement un peu chahuté entre sa mère et son père, etc. Mais tout ça, si vous voulez, ça aboutit à un ordre interne dans son œuvre qui échappe si on ne respecte pas la chronologie. On ne peut pas tout mélanger. Il y avait par étapes, on dit elle a beaucoup réécrit, elle a un peu abusé. Non, c'était quelque chose, ça venait par vagues, et surtout elle avait une exigence qu'elle a montrée dans son écriture littéraire, et ensuite quand elle a abordé le cinéma, la même exigence, retrouver un moyen, disons moderne pour parler rapidement, de restituer ce qu'elle ressentait profondément. Donc toute l'ordonnance de son œuvre, tout ce qu'elle pouvait faire dans une année, tout ce qui contribue au personnage de Marguerite Duras, on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas séparer le personnage de l'œuvre. Sinon, on aboutit à des erreurs. Alors, par exemple, on a raconté, je l'ai retrouvé dans des documents à Paris il y a quelques années, dans des documents pédagogiques, que quand elle avait un an, son père et sa mère sont partis en France et qu'on l'a laissée au bras d'une nourrice vietnamienne, d'où le côté vietnamien dans son oreille d'enfant, une acculturation, etc. Excepté qu'elle n'a jamais quitté les bras de sa mère. Il y a des photos d'elle dans le sud-ouest, dans votre région, en 1915. Elle n'a jamais quitté ses parents. Donc, à partir de là, ça devient grave si, à cause de l'ignorance de cet enchaînement des dates et des fêtes, on finit par inventer un peu n'importe quoi.
Oui, surtout qu'elle, elle a pas mal romancé sa vie elle-même.
Elle a beaucoup romancé. Oui. Mais encore une fois, pourquoi n'aurait-elle pas romancé?
Oui, bien sûr.
Quel est l'écrivain? Est-ce que Sartre n'a pas romancé? Est-ce que Chateaubriand n'a pas romancé? Oui. Moi, je me souviens quand j'étudiais Chateaubriand à l'université, et puis ensuite je suis dans les États-Unis, alors il y a des spécialistes qui disaient « Ah, oh, mais il n'a jamais visité telle ou telle région. Oui. » Peut-être, mais quand vous le lisez, ce que vous recevez, c'est autre chose, c'est de la littérature, c'est merveilleux. Donc ça, finalement, ça n'a peut-être pas tellement d'importance.
Oui, non, mais c'est une...
Alors, il y a par exemple un personnage que vous connaissez tous et qui est absolument extraordinaire, double fourreau de tulle noire, etc. Anne-Marie Streeter. Bon. Madame Streeter était l'épouse d'un administrateur, mais elle n'a jamais été à Vinland. Ils n'ont jamais été en poste à Vinland. Alors là, c'était assez facile. Il fallait retrouver le dossier de Monsieur Streeter et puis voir qu'ils avaient été quelques années avant un peu plus haut sur le Mekong. Ensuite, ils ont été à Saigon. Mais quand on compare les dates, Marguerite l'a peut-être connue, elle a entendu parler à Saigon plus tard, mais à Vinland jamais, pour la bonne raison que Madame Streeter n'y était pas. Alors à partir de là, bon, ça n'a pas tellement d'importance, ça n'enlève absolument rien, si vous voulez, à l'extraordinaire personnage qu'est Anne-Marie Streeter. Mais il y a tout de même... moi, ce qui m'a fasciné, alors je peux vous dire maintenant que plus j'avançais, plus je trouvais l'œuvre extraordinaire, parce que c'est, tout se tient, si vous voulez. Et comment, à partir de cette espèce... Elle a entendu dire qu'une femme d'administrateur était une dame un petit peu... comme on disait à l'époque, évaporée, en tout cas, bon, un peu trop charnelle, et qu'un jeune homme serait suicidé pour elle. Ce qui est vrai, apparemment. J'ai pu le vérifier, ça. Mais ça n'a jamais été... Marguerite Duras n'en a jamais été témoin. Mais que ça ait provoqué en elle ce choc extraordinaire qu'elle raconte ensuite à Michel Porte dans Les lieux de Marguerite Duras, pour moi, c'est une chose merveilleuse. Si vous voulez, que ce personnage qu'elle n'a pas connu, mais dont on l'a entendu parler, elle l'a complètement fantasmé. Et la dame qui elle a fini par connaître par, épistolairement, qui était dans une maison de retraite en de Paris, a eu la grande sagesse de lui dire « Je ne veux pas vous rencontrer ». Elle savait très bien, Madame Streeter, que tout ça, c'était du mythe, de la fantaisie. Mais encore une fois, ce qui est extraordinaire pour moi, c'est le processus de création littéraire. À partir de motivations aussi ténues, mais aussi profondes, ça veut dire que ça renvoie à... l'état mental dans lequel était Marguerite Duras, jeune fille. Et ça peut éclairer peut-être... est-ce qu'on a besoin de comprendre, d'ailleurs, la prose de Marguerite Duras? Non. Est-ce qu'on a besoin de comprendre un tableau? Non. On le regarde, on le ressent. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je voudrais aussi parler quand même de la responsabilité du biographe par rapport, j'allais dire, à l'honneur des familles, ce qui serait peut-être un petit peu rapide. Mais quand on lit dans certaines biographies, que je ne vais pas nommer, que Madame Donadieu vendait sa fille à un Chinois pour de l'argent, là aussi, il faut y aller tout de même assez doucement. D'abord, Madame Donadieu n'a pas mérité ce genre de traitement parce que c'était une femme qui a assumé une carrière tout à fait considérable. Elle était apparemment un petit peu une emmerdeuse, si vous me permettez l'expression. Mais c'était une femme d'abord qui a élevé ses enfants, qui a dû... assumait des fonctions très publiques, parce que Marguerite dit elle était directrice d'école indigène. Oui, mais il fallait tout de même être... Elle était sous l'œil des inspecteurs, et elle tenait son rang dans, à Vinland, à Sadec, et ensuite à Saigon, où avant d'ouvrir son école privée, elle avait eu un poste assez important aussi. Donc tout ça, après ça, parce qu'on n'a pas regardé les documents, dire que le Chinois a payé pour le voyage, par exemple, et que Madame Donadieu a pratiquement vendu sa fille... Ça n'est pas vrai. Et c'est malhonnête de perpétuer ce genre de choses. Il n'y a aucune raison. Ça ne tient pas debout. Et puis au niveau de la, du cheminement mental de Marguerite Duras, écrivant Le barrage contre le Pacifique, ou écrivant alors beaucoup plus tard L'amant, moi, encore une fois, ce qui me passionne, c'est de savoir comment elle est arrivée. Alors, l'écriture de L'amant, c'était merveilleux. Elle a trouvé des photos que son fils avait rassemblées. Elle s'est mise devant ces photos, et moi j'ai passé beaucoup de temps dans les photos. Nous sommes tous tributaires de la gentillesse de Jean Mascolo, son fils qui a gardé tout ce trésor. Et quand vous regardez Marguerite vieillir sur ces photos, vous comprenez un peu mieux aussi le personnage. Et à partir de là, l'écriture de L'amant, c'était une espèce... Alors, est-ce que nous n'avons pas tous un moment ouvert des photos de famille, et on se revoit jeune, et on se revoit chez la grand-mère, on se revoit chez, dans telle ou telle circonstance? Et le miracle, c'est que ça provoquait chez elle ce déclic en mythifiant une grande partie de son aventure avec le jeune Annamite. C'était pas un Chinois, c'était un Annamite. Mais le miracle, c'est cette écriture, cette espèce de beauté, de style qu'elle a trouvé. Bon, elle l'a beaucoup plus réécrit, je pense, que ce qu'elle a bien voulu dire elle-même. Mais c'est ça qui est intéressant, arriver à cette remémoration et cette pureté de style. Prenons un autre exemple, Émilielle, par exemple. Bon, Émilielle n'a jamais existé, mais Marguerite, alors là, elle a vu une silhouette dans le port, pas à Trouville, à côté. Elle en a fait un personnage merveilleux, un de ses plus beaux personnages aussi, un peu méconnu à mon sens. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, le biographe dans cette affaire, il a tout de même une responsabilité morale d'essayer de ne pas dire... et puis, une responsabilité vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis des gens qui font la Pléiade, par exemple, parce que l'ordre dans lequel l'œuvre, encore une fois, a été créée est très important. Ça permet... Et puis aussi, ce que j'ai essayé de montrer alors, dans la seconde partie, c'est la manière dont les critiques des années 50, années 60 accueillaient les œuvres de Marguerite Duras. Ça donne alors, la vie à Saint-Germain-des-Prés, tout l'engagement du Parti communiste. Tout ça n'est pas indifférent. On ne peut pas séparer la journaliste, la militante du Parti communiste, à ce qu'elle écrivait. C'est même assez extraordinaire qu'elle soit arrivée à écrire ce qu'elle faisait, alors avec le train qu'elle menait, si vous voulez. Mais ça, c'était elle, c'est la vérité du personnage.
Mais justement, en quoi la connaissance de la vie de Marguerite Duras éclaire son œuvre? C'est-à-dire, est-ce que si on la lit sans rien connaître de sa vie, on la lit différemment ou pas de, je veux dire, est-ce que, parce qu'on sent quand même une interpénétration des événements qui l'entourent et en même temps un style absolument unique à l'époque.
Je crois que c'est une question difficile parce que, oui, bien sûr, on peut lire Marguerite Duras sans rien savoir de sa vie. Ses livres ou pas. Les petits chevaux de Tarquinien, par exemple. On peut très bien lire ça sans savoir qu'il y a derrière. Mais alors, il y a quand même une chose importante. Si vous n'allez pas à Bocca di Magra, et si vous n'avez pas vu la Rocca Bianca, si vous n'avez pas vu ce petit port qui miraculeusement est resté tel quel, si vous n'avez pas vu les falaises de Maririn, des Carrara, vous retrouvez là le jaillissement de l'inspiration. Je vous racontais tout à l'heure, je suis allé une fois à Andernos, parce que le demi-frère de Marguerite Duras avait une villa à Andernos où elle a passé des vacances. On se souvenait encore de Jean Mascolo jetant de la crème glacée à la... Il était un petit peu mutin, disons, donc il était indiscipliné. On en parlait encore. Mais à Andernos, j'étais seul, après avoir fait des repérages, et le soleil baissait, je prenais des photos, et tout à coup, j'ai vu, si vous avez lu Moderato Cantabile, ce soleil rouge qui arrive dans la vitrine, dans la vitre du café où un des barrettes est en train de boire et où un amant a tué sa maîtresse. Ce genre d'image, vous le retrouvez dans des quantités de fois. Quand je suis allé sur les lieux du barrage, sur les lieux de la concession de Madame Donadieu, c'était extraordinaire. On pouvait entendre pratiquement des phrases du barrage. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Je ne sais pas. Mais je pense que ça, si on est curieux, alors une fois qu'on l'a lu et qu'on est happé par l'œuvre de Marguerite Duras, et ça arrive à beaucoup de gens, ça arrive encore, heureusement, je pense que c'est parce qu'elle vous parle directement d'une expérience qu'elle a profondément vécue. Je me souviens d'un professeur vietnamien à Aix, avec lequel j'ai eu de très bons rapports, qui m'a beaucoup guidé sur le système scolaire. Il a écrit un livre remarquable, Trinh Van Thao, il s'appelle, sur l'enseignement colonial des Français en Indochine. Il me disait, pour nous, Vietnamiens, Marguerite Duras, ça nous restitue le climat, l'hydrographie. On s'y retrouve, on y est. Alors, oui, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Non, mais parce que je pense que on a tous, lecteurs de Marguerite Duras, une image de cette femme engagée dans son époque, qui a occupé une place très importante à un moment donné, et qui reste malgré tout encore lue aujourd'hui, alors qu'on pensait à l'époque qu'elle était vraiment de son temps. Et bon, c'est son style qui...
Je pense que là, c'est quelque chose de très, très important. C'est que Marguerite Duras avait un pouvoir de voyance. Alors, ça paraît un peu ridicule. Elle-même s'est quelquefois rendue un peu ridicule. Mais quand vous relisez ce qu'elle écrivait, par exemple, sur les Coréens, le début d'Emily Hale, elle avait de temps en temps des visions fulgurantes de l'avenir. Son pessimisme, son désespoir politique, tout ce qu'on... Dieu sait qu'on a ri d'elle avec le camion. Mais d'abord, il faut regarder le camion pour ce qu'il est. C'est un film, c'est pas le film du samedi soir. C'est vraiment, d'abord, au niveau de l'image, au niveau du montage, au niveau de ce qu'est un cinéma d'avant-garde, c'est extraordinaire. Et surtout, vous la retrouvez complètement telle qu'elle était, c'est-à-dire possédée par cette vision de l'histoire, parce qu'elle avait elle-même traversé. Vous savez, la transition qu'elle a vécue entre l'Empire français, la guerre, où elle a travaillé, disons, un petit peu pour Vichy, même beaucoup, sans parler de Robert Antheim, là je reviendrai peut-être sur cet épisode, et puis se retrouver ensuite communiste, être jeté, se retrouver dans des combats qu'elle a vraiment vécu, comme beaucoup de Parisiens à l'époque, et puis après sa visite à Cuba en 67 et 68, et les chars russes à Prague, elle était complètement désespérée, mais en même temps, pas désespérée bête, elle était désespérée lucide. C'est-à-dire qu'elle avait une vision de ce qu'allait devenir ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Corée du Nord. Quand vous lisez attentivement certaines choses, elle avait vraiment ce pouvoir de voir l'avenir de certaines manières. Mmh. Et ça, je pense que c'est dans les gènes, c'est dans la nature de... Alors, est-ce que ça lui a été transmis par le père ou la mère? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a chez les deux. Alors, j'ai pu, heureusement, rencontrer pas mal de cousins et de descendants. D'abord, les enfants de Jean et de Jacques Donadieu, filles, fils, etc. Et il y a chez eux une espèce de... Je ne sais pas si vous allez peut-être penser que je suis quelqu'un qui a trop vécu aux États-Unis, mais cette espèce de malice qu'on trouve dans le Sud-Ouest, une malice paysanne, en fait. Et je pense qu'Henri Donadieu, c'était quelqu'un de beaucoup plus fin. C'est dommage qu'il soit mort si jeune, parce qu'il aurait peut-être eu sur sa fille une influence intéressante. Mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. C'est de la mère qu'elle a vraiment... Alors, est-ce que c'est de sa mère qu'elle a recueilli cette espèce de pouvoir, pas de divination, mais quand même assez proche quelquefois, je ne sais pas. Mais il est certain que... Quoi qu'on en pense, Marguerite Duras n'était pas un personnage ordinaire. On peut s'amuser, on peut gloser. Alors, on lui a reproché ce fameux article sur Christine Wiman. Bon, là aussi, il faut que... J'ai passé beaucoup de temps sur deux choses. La période de la guerre à cause de Robert Antheim, et puis après ça, les extravagances de la fin, les interviews, etc. Bon, alors, sur la période de la guerre, par exemple, c'est très... difficile de parler de la période de l'occupation. En même temps, les historiens, un Américain de quoi que j'ai rencontré, il y a eu un corpus considérable, si vous voulez. Donc, on ne peut plus, là aussi, juger un peu trop vite. Robert Antheim a été, en fait, très, très impliqué. Il était secrétaire particulier de Pucheux. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais M. Pucheux, ministre de l'Intérieur, c'est les lois d'exception, c'est les otages fusillés à Châteaubriand, c'est des choses très graves. Bon, alors, j'ai même pu parler à la fille de Pucheux, qui était, comme vous savez sans doute, fusillée en 1944. Le général de Gaulle a refusé sa grâce. Bon, Robert Antheim était quelqu'un d'extraordinaire, c'était un intellectuel catholique, il était à la faculté de droit dans les années 30. C'était tout sauf un revanchard, c'était tout sauf un anti-allemand, mais c'était tout aussi sauf un collaborateur, un vichiste grandin. Il s'est retrouvé peut-être un petit peu pris dans... Je ne sais pas, mais il était là. Il allait à Vichy. Il s'est retrouvé ensuite dans un ministère qui était peut-être encore plus, j'allais dire, pernicieux, le ministère de l'Information de M. Paul Marion. Personne n'a encore fait vraiment une étude sur Paul Marion. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, on entendait les éditoriaux chaque jour que nous envoyait ce monsieur. Quand j'étais à l'école primaire, nous écrivions au maréchal Pétain, obligatoire. J'avais un instituteur alsacien, j'étais dans la Drôme, et nous écrivions au maréchal Pétain, « Mon cher maréchal, j'ai bien travaillé à l'école cette semaine, etc. » Genre de bêtises. Tout ça organisé, vous imaginez, ça représentait, j'étais dans un petit village de la Drôme. Et le maréchal nous répondait sur une belle carte, sur son cheval blanc et son képi, « Mon cher petit, je suis très heureux de savoir que... » Voilà. Donc, Monsieur Antheim, en fait, a vécu cet appareillage de propagande comme on ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que c'était. Monsieur Paul Marion, il est resté là jusqu'à la fin de 1943. Alors, j'ai des témoignages très précis, d'autres en ont parlé, il a pu sauver des gens, il a pu tirer des dossiers au bon moment, mais il était tout de même, il était licencié en droit, il avait passé le concours de la préfecture de police. Donc, en parler pour un biographe, ça engage une certaine responsabilité. Et là, j'ai eu beaucoup de mal, je veux dire, grâce à une amie qui s'appelle Célia Bertin, qui a été une résistante elle-même, qui vit encore, qui a été elle-même romancière. C'est elle qui m'a encouragé. Elle m'a dit, mais tu dois le dire, tu dois montrer ce que tu as dit. Mais là encore faut-il y mettre la forme, si vous voulez. Mais je pense que ça ne parle pas forcément directement de Marguerite Duras, mais tout de même, ils étaient très proches l'un de l'autre, monsieur et madame Montaigne. Mm. Donc, d'une certaine manière, tout ce qu'elle a vécu ensuite, l'engagement au Parti communiste, et puis alors cette espèce d'épouvante qu'elle a éprouvée par rapport au camp, tout ça, ça a été très, très profond, et peut-être par rapport, justement, à ce qu'elle avait omis de voir, disons, pour être charitable pendant la guerre. Deuxième épisode, l'épisode de Christy Villemain. Là aussi, on a oublié un peu vite qu'elle avait déjà fait des chroniques très intéressantes que vous retrouvez dans Outside sur des cas criminels du même genre.
Il faut peut-être que vous rappeliez pour nos jeunes auditeurs quel était cet épisode Villemain,
parce
que tout le monde le sait.
C'était donc pour elle, peu comme pour Mauriac, pour des tas d'écrivains qui ont écrit sur des cas criminels, Violette Nozière, tous ces gens. L'écrivain français classique contemporain a écrit sur des cas criminelle célèbre, Marguerite Duras, dont on n'était pas d'une part à son premier essai, elle avait donc droit, ce qu'on lui a un peu refusé, à s'exprimer. Libération a organisé tout ça comme une espèce d'entreprise un peu publicitaire, il faut bien dire. On oublie aussi que cette affaire de Petit Grégory était dans les colonnes des journaux et à la télévision. Vous imaginez que RTL ait nommé l'avocat de Christine Villemain? La télévision se mêlait de l'affaire judiciaire depuis des mois et des mois. Donc Marguerite est allée, a vu, côté voyante, un peu, peut-être un peu ridicule, mais elle est rentrée chez elle et elle s'est dit « Non, je ne peux pas écrire là-dessus. » Elle voulait voir Christy Villemain, elle ne l'a pas vue, parce qu'il y avait des gens qui voulaient absolument éviter qu'elle se parle. À mon avis, c'est dommage, parce que si elle avait vu, elle aurait peut-être eu un peu plus de préscience encore. Mais elle a vu le juge qui s'occupait de toute l'affaire. Et ce juge, au moment où elle-même avait dit « Non, je ne peux pas écrire », elle téléphone à Serge Lille, « Je regrette, je ne peux pas le faire ». Le juge l'appelle, lui dit « Demain, j'inculpe Christy Villemain ». Là aussi, c'est quand même mystérieux. Alors, il y a un document, si l'affaire vous intéresse encore, un livre qui est apparu en 2004 qui s'appelle « Le secret de la Vologne, l'affaire Grégory, vue par le PJ ». Et ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Jacques Corozzi, l'éditeur est Gérard Louis, il est à Arouet, c'est-à-dire loin de Paris. La famille Villemain a essayé de faire interdire le livre, il n'y est pas parvenu. Et quand vous le lisez, j'aimerais ne pas me prononcer là-dessus aujourd'hui devant vous, mais c'est assez troublant. Pour revenir à Marguerite Duras, on a eu raison de lui dire « vous exagérez », mais qu'aujourd'hui on continue, comme j'ai vu encore dans le Télérama auquel j'ai contribué, le spécial, on la condamne de haut, mais de quel droit? Est-ce qu'elle n'avait pas le droit d'avoir une vision du crime? Tout ce qu'elle disait, dans le fond, c'est qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais elle l'avait déjà dit sur deux ou trois cas pareils. Mais je pense que chacun est libre de ses opinions, mais il y a un moment où Marguerite Duras devrait cesser d'être un personnage cocasse, pittoresque. Il y a des tas de gens qui vivent sur Marguerite Duras, finalement, et beaucoup d'universitaires. Alors, c'est leur métier, dans la mesure où ils enseignent. Je pense que là, il y a quand même une déontologie. Essayer de revenir à des choses plus réelles. Et puis ensuite, chacun est libre d'interpréter ses textes. Alors, je savais au départ que ma biographie serait très démodée. Parce qu'aux États-Unis, nous avons servi la nouvelle critique, le nouveau roman. Il fallait voir que le texte, etc. Donc, je n'étais pas innocent, je savais très bien. Mais dans le cas de Marguerite Duras, ça répond peut-être à votre question, encore une fois, séparer la vie, séparer le personnage de son œuvre, à mon avis, c'est dommage. Oui. On perd quelque chose d'essentiel. Alors, j'ai une lettre de Claude Régis qui est extraordinaire. Il en a écrit deux, après le premier volume et après le second. Et il me dit, mais dans le fond, vous avez écrit un roman historique, et alors, sur le personnage de Marguerite Duras, il me dit, mais dans le fond, vous et moi, nous ne rencontrons plus de gens comme ça. Parce que c'était ça, Marguerite Duras. Ça dépassait le pittoresque, ça dépassait les colonnes de Libération. C'était quelque chose d'essentiel qui, aujourd'hui, se retrouve comme un classique de la littérature. Bon, est-ce qu'elle est très différente? Oui, bien sûr, de George Sand, mais est-ce que ce n'est pas un peu le même genre de... la personne qui s'investit dans son époque, qui investit son œuvre. Sauf que Marguerite Duras, alors miracle, elle a pu écrire des articles extraordinaires, et puis... Je ne sais pas si vous avez jamais vu ses prestations à la télévision, Dim Dam Dong, dans les années 60. C'est extraordinaire ce qu'elle pouvait faire à la télévision. Elle pouvait tout faire.
Mais aussi, donc, c'est une femme qui a créé...
Je pense que nous lui devons une grande dette. On peut refuser son style, on peut refuser tout ce qu'on voudra, mais on lui doit du respect. Mm. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire avec une certaine tendresse, puisque j'avais quand même des sentiments pour elle. Voilà. Oui, et j'espère que ça n'a pas brouillé mais la rigueur que j'essayais de m'imposer. Ce qui est... Mais après moi, il y aura d'autres chercheurs qui diront « Ah, mais vous n'avez pas trouvé telle chose ». Je pense que ça, l'aventure continue, si vous voulez.
C'est jamais fini.
C'est bien.
Mais c'est aussi une femme qui a créé dans différents domaines très différents, et je pense qu'ils sont peu nombreux, parce qu'elle a écrit, elle a fait du théâtre, elle a fait du cinéma, et à chaque fois avec une créativité...
Je pense qu'effectivement, elle est un exemple tout de même d'un littérateur, d'une littératrice, je ne sais pas si le mot existe, qui, au cinéma... Quand on veut bien regarder, quand on lit ce qu'elle écrivait à l'avance, les textes préparatoires pour ses films, c'est extraordinaire, parce que voilà quelqu'un, elle avait la même rigueur, la même recherche pour trouver un autre langage. Elle était vraiment fatiguée. Alors, le cinéma que nous voyons aujourd'hui, vous et moi et tout le monde, c'est finalement un cinéma de... Il y a des choses merveilleuses, il y a des choses très bien, mais c'est quand même toujours un peu la paresse. Le processus narratif ne change pas. Elle a essayé de retrouver la pureté de l'image. Si vous regardez le meilleur exemple, c'est peut-être l'avant-garde des années 20 en France, où on a eu Germaine Dulac, des gens comme ça, qui fait des... Jean Epstein, qu'on honore en ce moment à la Cinémathèque française, qui avait cette espèce de créativité dans la relecture de l'image pour défaire la paresse, justement. Le théâtre, le cinéma, etc., ils héritaient d'un lourd passif aussi. Donc elle a pu faire ça au théâtre. C'est merveilleux. Regardez le nombre de gens maintenant qui reçoivent Marguerite Duras dans leur oreille, dans leur cœur, dans leur tête, à cause d'actrices comme Emmanuelle Riva ou Dominique Blanc ou d'autres. Et là, on se rend compte, mais cette femme écrivait d'une manière miraculeuse. Ça nous arrive en plein cœur, ça nous arrive en pleine tête. Ben, c'était ça, Marguerite Duras. Ouais. Et je pense que là, vous avez raison, c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel.
Ouais, ben elle a concentré, en fait, à la fois toute son époque et en même temps, elle a apporté des choses nouvelles dans tous les aspects artistiques.
Pense qu'elle avait une recherche, un sens de la modernité, ce que Baudelaire appelait la modernité pour notre époque. Par rapport à ce que Nathalie Sarraute appelait l'ère du soupçon, par rapport au roman flaubertien, etc., elle a vraiment ouvert le terrain et déblayé devant elle d'une manière extraordinaire, par obstination. Je pense qu'elle-même n'en avait. Elle disait quelquefois, mais par exemple, Wolfenstein, elle ne comprenait pas d'où ça lui venait. Donc c'est le génie, ça. C'est une espèce de. Alors quand elle disait je suis génial, moi je regrette, je pense que oui, elle avait le droit de le dire. Elle a payé pour ça. Elle a vraiment payé. Quand vous regardez ce qu'elle pouvait faire, même quand elle était ce coma de 5 mois. Alors, pour moi, ça a été terrible parce que la personne qui me l'avait présenté, Richard Rad, le directeur du Festival de New York, est tombé à Nîmes à la même période, dans un coma, dont lui ne s'est pas sorti. Et pendant 5 mois, j'avais des nouvelles de Marguerite Duras et de Richard. Et je me disais, elle n'en sortira pas. Si elle en sort, mon Dieu, le cerveau sera atteint, ce sera épouvantable. Elle est ressortie, elle a recommencé La pluie d'été. Si vous lisez La pluie d'été, c'est un miracle de fraîcheur, d'inspiration. Donc il y avait chez elle quand même quelque chose hors du commun, au minimum. Ouais.
Ben, c'est une belle façon.
Vous en conclurez que je ne déteste pas Marguerite Duras.
Merci beaucoup.